بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité d'être réunis dans cette masjid Bayt min Buyutillah pour essayer d'étudier et d'apprendre un peu plus les noms d'Allah Azza wa Jal et le nom d'Allah que nous avons commencé donc à étudier depuis quelques durous, quelques muhabara, c'est Ar-Razzaq, celui qui accorde la subsistance. Celui qui accorde la subsistance, et on avait expliqué en introduction qu'il y a deux catégories de rizq, le rizq am et le rizq khas. Le rizq am, c'est tout simplement la subsistance, ce qui te permet de vivre, la nourriture, la boisson, et d'une façon générale les revenus pour qu'une personne puisse vivre dans la dignité. Et ça, Allah Azza wa Jal s'en est fait la promesse que c'est lui qui est responsable de cette subsistance pour l'ensemble de ses créatures. Et on avait, bi'idhnillah, développé deux versets. « وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا » On a vu que ce verset englobe non seulement les êtres humains, mais « وَمَا مِنْ دَابَّةٍ » n'importe quel être vivant, que ce soit les plus gros des mammifères, jusqu'aux insectes, jusqu'à la vie microbienne, subhanallah, toute créature d'Allah, azza wa jal, a besoin d'un rizq, d'une subsistance, et c'est Allah, azza wa jal, qui en assure la subsistance. Et on avait vu qu'à travers ce verset, normalement, le croyant doit renforcer sa confiance en Allah, et réaliser que la subsistance vient d'Allah, et que si on s'oriente vers lui par les invocations, Bismillah wa ala barakatillah, avant de manger, et si on travaille de façon licite, et qu'on s'éloigne et qu'on abandonne les péchés qui risquent de causer préjudice à la baraka, ben Allah Azza wa Jal va nous accorder min khazaini, va nous accorder de ses trésors. Et donc, si on a bien intégré le fait que c'est Allah qui donne, on comprend qu'il serait totalement inconscient de passer par un chemin haram pour avoir le rizq, alors que c'est Allah qui t'accorde ton rizq. Ça, c'était une istifada. Parce que ce qui est important, ikhwani fillah, ce n'est pas juste écouter, étudier, entendre, passer en revue des versets, des hadiths. Ce n'est pas ça le but. Bien sûr, ça c'est talabul ilm, mais le talabul ilm a son importance à partir du moment où c'est ilmun nafi'. Ilmun nafi', c'est la science qui est profitable. C'est-à-dire c'est une science que tu vas être capable de transformer tout de suite, Luqman, immédiatement, ce ilm-là, tu le transformes en amal. Tu le transformes en action, en bonne action. Un ilm qui te permet de t'éloigner tout de suite du haram, qui te permet de te réformer. Le plus important, c'est la réforme spirituelle. Ce que je fais pour moi-même. « Ya ayyuhalladhina amanuqu anfusakum wa ensuite wa ahlikum nara » Que l'être humain, que le mu'min se protège lui-même du feu de l'enfer, ensuite ses proches. C'est-à-dire que la première réforme, le premier mujahada, le premier travail à faire, c'est sur nous-mêmes. Essayer de combler nos manquements par rapport aux bonnes œuvres, essayer de parfaire nos bonnes actions, gagner en qualité, en intensité, en présence de cœur, en khushu', en dévotion, dans mes prières, en tadabbur. Tadabbur, c'est dans ma lecture de Coran, en ikhlas, dans l'ensemble, ça concerne l'ensemble des bonnes actions, et faire des efforts sur moi-même en passant en revue mes péchés du quotidien. Celui qui n'a pas commis un péché volontairement ou involontairement depuis ce matin, qu'il lève la main et que j'embrasse ses mains, subhanallah, et que je le prenne comme guide. Ma fi ya ibn an-nas, nous sommes des êtres humains. Et l'être humain, par définition, c'est une créature qui commet des erreurs. Et les meilleurs parmi ceux qui se trompent, ce sont ceux qui demandent At-tawwabun, ceux qui demandent régulièrement pardon à Allah Azza wa Jal. Donc la réforme spirituelle, le fait de rechercher la perfection de la foi, la proximité avec Allah par l'éloignement des péchés, l'accomplissement des bonnes actions et en travaillant le tawhid, l'unicité d'Allah, en travaillant l'ikhlas, l'istiqama, ainsi de suite, tout ça, ça fait partie de la mission du mu'min, la mission du croyant. Hada. Le deuxième verset qu'on avait passé en revue, c'était « وَكَأَيِّ مِنْ دَابَتِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ » Et qu'il y a donc des créatures qui ne peuvent même pas obtenir leur subsistance parce qu'ils sont faibles, parce que quel que soit la nature ou le lieu géographique et ainsi de suite, et il y a là-dedans « ibra » Ibra, une leçon. Quand on parle de créatures qui vivent dans les abysses, on avait parlé au fond de l'océan, il n'y a même pas de lumière, et ainsi de suite. Et que ce sont des créatures totalement inoffensives. Il y a des créatures qui restent, subhanallah, comme des mollusques, je ne sais pas comment on appelle ça, ils restent immobiles. Et s'il y a un poisson ou autre chose qui passe, c'est là qu'il peut se nourrir. Mais tout ça, il n'y a rien, il n'y a pas de hasard dedans. Ikhwan, ya khawati fillah, yaqin, conviction. Que Allahu yarzuqaha wa iyyakum. C'est Allah qui leur accorde la subsistance. Et ça renforce encore notre conviction que c'est Allah qui donne la subsistance. C'est pas que tu vas faire plus d'efforts ou là ou Allah. Et surtout, deuxième leçon spirituelle, n'abandonne pas une bonne action pour obtenir plus de rizq là ou Allah. N'essaie pas d'avoir un travail qui te permettra d'avoir 200 euros en plus. Mais la conséquence, c'est que tu ne peux plus accomplir ta salat de Jum'a. Ou alors tu t'éloignes considérablement de la mosquée. Ce serait une grave erreur. Ce serait une grave erreur. Donc, prendre conscience que le risque est dans les mains d'Allah. Et qui dit risque, la nécessité de comprendre une autre notion. Quand on parle de risque, il y a la notion de baraka. Parce que si nous essayons de quantifier le risque, assurément la notion de confiance en Allah, elle disparaît. C'est-à-dire qu'être conscient que ce qu'Allah te donne, même si à tes yeux ça ne paraît pas énorme, même si par rapport, je ne sais pas, le français moyen, combien il gagne, et donc comparer ça, ce n'est pas énorme, mais sache que dans une petite quantité, Allah peut t'accorder une bénédiction. Combien de personnes touchent, mashallah, une somme avec plusieurs zéros, parfois 4 zéros, hein, ça peut arriver aussi. Mais là, yastafiduna. Il ne tire aucun profit de cette subsistance. Problème de santé, problème familial, divorce, problème d'ordre économique ou peu importe, d'autres problèmes qui font que la personne, subhanallah, possède des biens et ainsi de suite, mais il n'y a aucun bonheur ni sakina qui s'installe dans son cœur. Donc tout ça, ce sont des notions que nous connaissons. Hein. Donc, prendre conscience qu'Allah est Razzaq, ça implique la notion également de baraka. Comprendre que Allah met la baraka dans ce qu'il te donne. Et sachant que, vous voyez comment ça s'emboîte, hein, et puis là ça débouche vers une qualité que nous devons avoir, al-qana'a, être satisfait de ce qu'Allah nous accorde. À partir du moment où tu sais que, première étape, tout vient d'Allah, et que ce qu'il te donne, c'est suffisant pour toi, il y a la baraka dedans, et que tu lèves les mains, tu remercies, qu'il y a qana'a, la satisfaction, et tu l'utilises dans les bonnes actions, dans les bonnes œuvres, dans le droit chemin, mashallah, c'est une partie de ta religion qui est accomplie. Alors, nous allons voir aujourd'hui, inshallah, c'est pas un mas'ala cette fois-ci, c'est pas une règle de jurisprudence, mais une question qui est-ce qu'on peut se rapprocher un petit peu? Je pense qu'il n'y a pas de mal, hein? Enfin, tout en gardant vos distances, mais en fait, la masjid est tellement grande que la voix se perd et si on peut peut-être fermer ça aussi, Allah ibarik fik. Question acoustique, c'est pas le top, au moins, voilà. Jazakumullah khair. Une question qu'on a, ou une remarque, il y a des personnes qui disent que, à notre époque, avec les difficultés économiques, avec le contexte actuel, vaut mieux ne pas faire trop d'enfants. Vaut mieux ne pas avoir trop d'enfants. Pourquoi? Hein? Pour les nourrir. Alors, quand certains disent que pas trop d'enfants parce qu'il faut bien les éduquer, se concentrer sur l'éducation de 2 ou 3, c'est plus facile que sur 8, je peux comprendre. Ça se tient. D'accord? C'est clair que si on a 3 enfants et que, bienvenue là, on essaie de les encadrer, on leur consacre du temps, c'est un grand ni'ama, et c'est peut-être mieux, et puis Allah est seul juge, hein, je ne peux pas dire qu'est-ce qui est mieux ou pas mieux, hein, que si j'en ai 10 et que je les laisse courir dans la rue, je ne sais pas, aller dans la cité, d'autres les camélias, d'autres les. Je n'ai rien contre les gars camélias, d'autres les moufias, les chaudrons et tout, qu'est-ce qu'ils font, Allahu a'lam. Et on n'a aucune. Ben, ça, c'est la Oumma, ça. Ça, c'est la Oumma. Tu laisses la Oumma se disperser. Et tu. Est-ce que tu prends la garantie que le jour de Qiyama, lorsqu'on te demandera, on te posera des questions à propos de tes enfants, est-ce que la personne se sent prête à dire que voilà, j'ai donné l'éducation ou je n'ai rien fait? N'oublions pas que le Prophète m'a dit Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, barakallahu fik. Vous êtes tous des quoi? Des bergers. Elle est belle cette métaphore, hein? Nous sommes des bergers. Et quelle est la qualité principale du berger Mustapha? Un mot. Une qualité. Non, un adjectif. La patience. La patience. Le berger est patient. Le berger est bienveillant. Oui ou non? Bienveillant. Et même si brebis, agneau, peu importe, d'accord? Dès qu'on parle de ça, certains ont faim. Là. C'est pas possible, ça, on ne peut pas vivre pour manger. S'il y a un petit animal qui s'éloigne du troupeau, même s'il le fait 3 fois, 4 fois, est-ce que le berger va dire, écoute, tant pis, allez, tombe dans le fossé, ou va aller côté de la route tamarin, laisse le tobacraso, mais pas avec ça. Là, bienveillance, patience, ce sont les qualités du berger. Il va ramener l'agneau, le petit mouton, et ainsi de suite. Ainsi étaient les anbiya, alayhi mussalat wa salam, ainsi étaient les prophètes, et nous sommes les héritiers des prophètes, dans différents jawanib, dans différentes facettes, on va dire, de la religion, et entre autres, dans l'éducation, nous avons ce rôle de, entre guillemets, je ne dis pas que nous sommes des prophètes chez nous, mais nous sommes des bergers. Comme les Anbiya étaient bergers pour une umma en entier, nous sommes bergers pour notre famille. Et donc, kullukum ra'in, kullukum mas'oul. Mas'oul, c'est une mas'ouliya, c'est une responsabilité. Donc, quand on parle de tarbiya, d'éducation, subhanallah, des enfants, donc, voilà. Donc, certains disent ne pas faire beaucoup d'enfants parce que il faut bien les cadrer. Je suis partiellement d'accord. Maintenant, quand d'autres personnes disent que non, il ne faut pas avoir une famille trop nombreuse parce qu'on aura du mal à les nourrir, c'est là que. Et les savants disent, ça s'appelle su'udhanni billah. On a souvent parlé de husnudhanni billah, oui ou non? Une pensée, une opinion, une bonne opinion à propos de notre Seigneur. Ça c'est subhanallah, ça c'est la base. Et comment est-ce qu'on développe une bonne opinion d'Allah? En connaissant les noms d'Allah. Si on devait compter le nombre de noms d'Allah qui découlent de sa clémence, subhanallah, et le nombre de noms d'Allah qui vont dans le sens de celui qui châtie, al-muntaqim, ainsi de suite, ben on voit tout de suite que, subhanallah, les noms d'Allah en rapport avec l'amour de notre Seigneur pour ses créatures sont, subhanallah, bien supérieurs et majoritaires. Le husnul dhanni billah, la bonne opinion de notre Seigneur, ne trouvera sa place dans notre cœur qu'à partir du moment où on connaît Allah par ses noms et ses attributs. Alors, on revient à cette question, et le savant, le alim qui a écrit donc cet ouvrage, il apporte une réponse, mais c'est tout simplement magnifique. En quelques lignes, hein, il donne un grand développement, ce sont des thèses qui tiennent en 4 points, mais subhanallah. Et il dit que, sache ô croyant, je vais le dire en arabe parce que c'est très beau. Faïda aktharu min al aulad akthar Allahu rizqahum. I'alam. Aya, oustad. I'alam. Sache que, idha aktharu min al aulad, s'ils ont plus d'enfants, ben, le croyant doit avoir la conviction que si j'ai plus d'enfants, si j'ai 5, 6 ou 7, ben, Allah donnera encore plus de subsistance. Parce que le rizqa, ça ne dépend pas de mon travail, de mon salaire. Non, le risque vient d'Allah. Et comment ça se passe? C'est quoi le mécanisme? Il explique ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Il reprend les mots du verset. Il dit parce que sache ô croyant qu'il n'y a pas une créature sur cette terre dont la subsistance n'est pas dans les mains d'Allah. Et il a dit farizqu awladika wa atfalika 'ala Allah. Sache que la subsistance de tes enfants, de ta progéniture, de ta descendance est Allah, comment on va traduire? Sous la responsabilité d'Allah. C'est Allah qui en est le garant. et ça c'est très beau. هو الذي يفتح لك أبواب الرزق من أجل أن تنفق عليهم. هو si on décortique, on dit هو c'est هو أي هو واحدة, c'est lui et uniquement lui qui te permet d'avoir cette subsistance. يفتح لك, c'est une question de fath, c'est Allah qui donne, qui accorde. C'est pas selon tes efforts ou ainsi de suite. Il y a les efforts de l'être humain, mais il y a que c'est quand Allah décide d'ouvrir une porte de risque et de baraka, ça vient de lui. Et sachant que ça vient de lui, qu'est-ce que nous devons faire? Lui demander. Lui demander. يفتح لك أبواب الرزق من أجل أن تنفق عليهم. Quand Allah t'accorde la baraka de ta subsistance, il te l'accorde pour que tu puisses subvenir aux besoins de cette progéniture, de cette famille qui est nombreuse. Et il dit لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ عِنْدَهُمْ سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ وَيَعْتَمِدُونَ عَلَى الْأُمُورِ الْمَادِيَةِ. Mais la majorité des gens qui pensent justement qu'il ne faut pas avoir une grande famille par rapport à tout ça, ils ont une mauvaise opinion d'Allah. Et on avait parlé tout à l'heure de la bonne opinion, c'est essentiel. Après, on s'est un peu perdu là-dessus. On a dit que c'est essentiel pour le croyant d'avoir une bonne opinion à propos d'Allah, et le contraire, ce serait سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ. Et ça, c'est un péché grave qui touche notre iman. C'est un péché qui touche quelle branche de la foi? Al-iman billah. Première branche de la foi, croire en Allah. Et croire en Allah, après, c'est, subhanallah, c'est une notion magnifique qui nécessite d'être développée, bien sûr. Mais parmi les nawaqid, parmi les points qui sont inacceptables dans Al-iman billah, c'est avoir une mauvaise opinion d'Allah. Et celui qui se dit que la nourriture dépend de moi, en oubliant que c'est Allah qui leur accorde la nourriture et en craignant qu'il n'ait pas assez à manger, subhanallah, cette personne commet un péché. Et il a une mauvaise opinion sur Allah, Azza wa Jal, hadha. Et quelle est la métaphore que le prophète, alayhi salat wa salam, avait utilisée pour nous faire comprendre que notre subsistance est dans les mains d'Allah? Une métaphore, parabole, en donnant l'exemple d'un animal. Qui connaît le hadith? Vous connaissez. Ya Hudhaifa.
Les oiseaux sont le matin qui reviennent.
Allahu Akbar, les oiseaux. Le prophète m'a dit que si vous aviez confiance en Allah, haqqat tawakkul, une vraie confiance en Allah, comme le croyant se doit d'avoir, se doit de développer, Allah vous aurait nourri comme ces oiseaux. Voyez ces oiseaux qui quittent leur nid le matin, le ventre vide, et qui retournent, subhanallah, de leur nid le soir, ou quelle que soit l'heure, le ventre plein. Est-ce que vous voyez des oiseaux qui meurent de faim? Est-ce qu'il y a des oiseaux qui ont un niveau de bac? Je dis n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des oiseaux qui ont une garantie de nourriture, ainsi de suite? Non. Ils vont là où, je ne dis pas où le vent les mène, non, où leur risque est écrit. Et Allah leur accorde leur subsistance. Et c'est pareil pour chaque créature, et c'est pareil pour toi, au mu'min, au croyant. Mais place ta confiance. Et après, les savants, si on veut développer un petit peu, les savants disent que dans cette métaphore, il y a quand même une réalité. Il y a la confiance en Allah qui est associée à l'effort. Parce que ces oiseaux, ils n'obtiennent pas le risque en restant de leur nid. Ils font l'effort de quitter le nid, prendre leur envol, aller à droite, à gauche, nord, sud, l'est, l'ouest. Ils vont à la recherche d'un risque qui leur est prédestiné et qu'ils vont obtenir avec ce petit effort et conviction, ce qu'Allah qui donne la subsistance. Donc le mu'min se doit de faire les efforts nécessaires pour obtenir son risque, mais il sait pertinemment qu'en finalité le risque est de la main d'Allah, mais cet effort est nécessaire et c'est le mécanisme, c'est la sunnah d'Allah, Azza wa Jalla. Ainsi donc cette question d'avoir une famille, mashallah, avec beaucoup d'enfants, ainsi de suite, elle doit être totalement balayée, totalement, parce que nous avons cette confiance que c'est Allah qui est Ar-Razzaq, c'est Allah qui donne la subsistance. Hada. Et il en est de même pour le mariage. Il y a des jeunes qui se disent que je ne peux pas me marier maintenant parce que je n'ai pas les moyens. Mais tu n'as pas les moyens de quoi? Je n'ai pas les moyens de payer un loyer ou d'assurer les dépenses pour le ménage, ainsi de suite. Dans le Coran, Allah Rabbul Izza nous rappelle qu'il y a le verset إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ يُغْنِهِمُ اللَّهُ. Ça vient de quel verbe, يا حُذَيْفَةُ? yughnihimullah. Aghna yughni, rendre riche. Enfin, riche dans le sens, in yakunu fuqara, Allah parle de ces personnes qui justement n'ont pas les moyens pour, par rapport à leurs conditions, ils n'ont pas les moyens pour leur subvenir à leurs besoins de le cas d'un mariage, d'un nikah. Allah dit in yakunu fuqara, s'ils sont pauvres, ils sont démunis, yughnihimullahu min fadli, par sa grâce, il leur accordera la richesse. Les savants disent que ce sont des sunnah, sunnatul anbiya, sunnah des anbiya alayhim salatu wa salam, on le fait, on l'accomplit et on est persuadé de cette conviction que Allah a promis yurnihimullah, Allah a promis d'ouvrir une porte de subsistance et d'accorder la baraka de le risque de la personne qui se marie. Pareil pour les enfants, si on en a deux, Allah te donne le risque pour deux. Si tu en as neuf, Allah te donne le risque pour neuf, même si ton salaire n'a pas bougé, même si tu gagnes la même somme. Ça, c'est une conviction et ça fait partie des grandes leçons de yaqin qui découlent de ces versets. Et ce savant, le mu'allif, a cité cet exemple. Il dit que هذا مع أن الرزق, pourquoi est-ce qu'il est important il est essentiel hein, de comprendre que le risque est dans les mains d'Allah, parce que c'est quelque chose qui est vital, le risque, la subsistance, la nourriture. C'est quelque chose dont on a besoin, pas une fois dans l'année, mais plusieurs fois par jour. Et on ne parle pas que la nourriture qu'on mange, mais c'est également, comme on a dit, les dépenses du quotidien pour s'en sortir, pour subvenir à nos besoins. C'est quelque chose qui est hissi, qui est réel, qui est palpable. Et dans cette chose dont nous avons besoin, mais à chaque instant, s'en remettre à Allah, c'est vraiment une belle leçon de confiance. Se dire que je fais les efforts, mais je m'en remets à Allah, ça permet aux croyants de développer son iman billah, sa foi en Allah, parce que foi en Allah est synonyme de confiance en Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Les deux sont ensemble. Certes, c'est uniquement toi que nous adorons, ok. Si tu adores Allah réellement, wa iyyaka nasta'in, tu dois être également celui qui cherche de l'aide uniquement auprès de lui. C'est-à-dire le cœur est avec Allah, le front est posé sur le sol pour Allah, mais le cœur est toujours avec Allah Azza wa Jal. Hada. On a un peu dépassé le temps. Est-ce qu'on s'accorde 5 minutes? 5 minutes. Petite anecdote. On faisait un darj de sirat, enfin, on enseignait la sirat à des lycéens il y a deux semaines, juste avant ces événements. Et on étudie la bataille de Tabouk. Quelle année est la bataille de Tabouk? Makkah ou Madina? Madina, bien sûr. Il n'y a pas de qital à Makkah. Bataille de Tabouk, c'était contre qui? Ar-Rum. Et Ar-Rum, ce sont qui? Les Romains. Qu'on appelait également... Ah, un professeur d'histoire. Qu'on appelait également les... Il y avait un autre nom pour les Romains. Non, on ne parle pas en arabe, là. En français, il y avait un autre nom. Les Byzantins. Quand on parlait de Byzance, c'est pas n'importe qui, hein. Et quand on parle de Romains, oubliez Astérix et Obélix et tout, c'est pas de la rigolade. C'était une armée professionnelle, c'était des tueurs. C'était une armée qui avait pour but de conquérir des terres. C'était leur mission, c'était des robots. Une des rares armées professionnelles. C'était qui les grandes forces à l'époque des Arabes? Les Romains, il est? Ah, Alif Lam Mim, غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلب وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. Donc, un Nabi عليه الصلاة والسلام, on connaît l'histoire de Tabouk. Tout le monde connaît l'histoire de Tabouk. On ne va pas venir sur les détails. Le prophète entend que les Romains s'approchent et ils étaient proches de la Palestine, donc ils s'approchaient de la péninsule arabe. Et tout le monde savait que quand les Romains s'engager sur une terre, c'était pour la conquérir. C'était, ils ne faisaient pas de tourisme, hein, ça c'était très clair. Ce n'était pas pour s'imprégner de la culture, de l'ouverture d'esprit, il n'y a rien de tout ça. Les terres, les récoltes, les femmes deviennent esclaves et les terres, on les prend et s'il y a un problème, on brûle et on tue tout le monde. À Rome, les Romains, d'accord ? Le prophète alayhi salatu wa salam prend une décision qui est courageuse et qui restera dans l'histoire des civilisations. Il prépare une armée qui sera composée des gens de Madina, mais également des différentes tribus arabes autour de Madina. Et c'est la première fois qu'il va dire aux gens que nous allons à Tabouk. Parce qu'avant, il ne donnait jamais d'indication sur le lieu. Parce qu'il y avait toujours J'ai dit, je ne donne pas de détails, mais on entend refaire le code sirat, ce n'est pas le but. Une bataille qui va avoir lieu dans des circonstances extrêmement difficiles. Qui peut me dire pourquoi c'est difficile? Il faisait chaud, mais il faisait très chaud. Deuxièmement, chaleur, distance, on est à peu près, entre Madina et Tabouk, c'est 650 km, à peu près. Énorme, c'est énorme. Et la récolte des dates. Ikhwan fillah, les dates, on les récolte combien de fois par an? Une fois. Comme tout arbre fruitier. Une fois. Ça veut dire, et on sait que Ahl Makka, c'était des tujjar, des commerçants. Ahl Madina, c'était des agriculteurs. Travaillent la terre. Et la récolte des dates, c'était important. C'était capital pour Ahl Madina. Et donc, il fallait quitter Madina, aller à 650 km en plein été, avec la chaleur, et laisser la récolte des dates. C'était un mujahada extraordinaire. Et en plus, s'aventurer contre une armée de boucher les Romains, d'accord, et ne pas savoir si on allait revenir un jour, et laisser femmes et enfants. Mujahada, oui, on a sahaba, ils ont donné leur vie pour Allah, pour le dîn d'Allah. Donc on avait expliqué l'histoire, comment ça s'est passé, et puis finalement les Romains ont eu peur. Ils étaient surpris de savoir que les musulmans étaient déjà là avant qu'ils avancent. Ils se sont dit que c'est peut-être une armée consistante. Voilà. Allah a décidé, Allah crée, enfin on ne peut pas rentrer dans trop de détails, Allah crée des situations pour tester le mu'min, c'est-à-dire la foi du croyant, ça marche aussi. Allah crée une situation et Allah avait déjà écrit dans le taqdir que les Romains n'allaient finalement pas entrer de la terre sainte. Mais Allah crée la situation de peur, parce que et des fois Allah il vous protège, Allah des fois vous protège de la peur, des fois Allah éprouve par la peur. Allah a éprouvé les croyants à un tel point que Umar ibn al-Khattab et d'autres sahaba racontent que quand ils savaient que les Romains étaient autour de la péninsule arabe, il y avait un climat de psychose. Une psychose. Que le moindre bruit étrange, le moindre événement, les gens avaient peur. Ils se disaient peut-être que c'est les Romains qui sont là. Parce que tout le monde connaissait, tout le monde savait que quand les Romains s'orientent, je le répète, quand l'armée romaine s'oriente vers une terre, c'est terminé. Personne, à part les Perses à l'époque, mais rarement, c'était souvent les Romains qui gagnaient. Bref, d'accord ? Et donc, résultat, les musulmans sont retournés, alhamdoulilah, et on connaît l'histoire des trois qui n'avaient pas participé. Donc, on a raconté ça aux lycéens, aux élèves, et puis on a mis en avant le mujahada, le sacrifice des sahab. On dit que si nous sommes musulmans, là, on est capable de parler d'Allah al-Razzaq et d'avoir pris salat al-Isha, c'est hidayah min Allah, la guidée qui vient d'Allah. Ensuite, on ne dit pas on dit ensuite. C'est l'effort de Nabi alayhi salat wa salam, ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzil ilayka min rabbik, il a fait le tabligh ar-risala, il a propagé, et avec ça il y a le mujahada, l'effort des sahaba qui sont partis mashallah dans le monde entier pour propager la ilaha illallah muhammad rasulullah. Autrement, que serions-nous aujourd'hui? Wallahu musta'an. Donc shukru lillah wa alhamdulillah, nous sommes musulmans bi hidayatillah, ensuite par les efforts de Nabi alayhi salam et des sahaba ridwanullah alayhim ajma'in. Maintenant, on ne peut pas plier une histoire de la sirat, voilà comment ça s'est passé, et c'est terminé, étape suivante, l'an 9. Non. La question qu'on a posée aux élèves, c'est, vous voyez ce que les sahaba ont fait pour le dîn. Vous, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour le dîn? Allahu Akbar. Une question qu'on se pose en regardant son propre cœur. Qu'est-ce que moi, je pense pouvoir faire pour le dîn d'Allah? Eux, ils ont donné leur corps, leur temps, leur bien. Il savait qu'en quittant Madina, il ne retourne pas. Abu Bakr al-Siddiq, il donne tout dans le chemin d'Allah. Il dit, tu as laissé quoi? Qu'est-ce qu'il a répondu? Allah wa Rasul. Ça, c'était Mujahada. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pour le dîn? On a posé la question aux élèves, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire? Mais ils sont choqués parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre le discours de l'autre sens. On a l'habitude d'écouter. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand on nous demande, mais on retourne contre nous la question de cette impasse, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Et là, on expliquait qu'à notre époque, les efforts pour la religion sont en fonction du contexte. À notre époque, de quoi est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de masajid, de madaris, de ta'lim, de da'wa ilallah, de tarbiya. Nous avons besoin de propager la religion, propager le message du din. Je dis que maintenant, si quelqu'un veut faire un effort pour le din, quelque chose de réel, un sacrifice, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a comme projet et de financer. Et là, la petite parenthèse, il y a une petite fille de 13 ans, la semaine dernière, je me dis, voilà, j'ai mes économies de Eid, j'amène 40 euros, je donne pour la construction de la masjid. Je dis, subhanallah, on a accepté, Allah te récompense, tu lèves, te donne la sadad, ou l'istiqama, mashallah. Mais ce qu'on veut, ce qu'on doit bien comprendre, c'est que l'éducation de nos enfants, pour qu'ils comprennent l'islam et qu'ils puissent vivre dans la société avec ses valeurs, cela transite obligatoirement par l'enseignement religieux. Parce que le détournement de la religion, c'est quelque chose qui est, Allah Musta'an, également possible et facile. Il suffit d'avoir un mauvais professeur, un faux alim, un demi-alim. Vous savez qu'il n'y a rien de pire qu'un demi-alim et un demi-docteur. D'accord ? Il ne suffit pas de regarder Dr. House pour dire que, ah, t'as un problème au cœur. J'ai vu Dr. House faire ça, je vais faire la même chose. On prend quoi, un couteau suisse et on coupe, ça se passe dans les séries, ça. D'accord ? Et celui qui est autodidacte, ça c'est la pire des choses. Et nous vivons une époque où les gens deviennent de plus en plus autodidactes. Ils vont sur Internet, ils se documentent et ils sont persuadés d'avoir un socle spirituel de connaissances suffisantes pour pouvoir parler de l'islam. Et les islamologues poussent comme des... Comme des quoi ?
Des champignons.
Champignons. À La Réunion, il n'y a pas de champignons. Il faut une autre métaphore. Comme des mauvaises herbes. D'accord ? Et les gens se pensent... Voilà, parce qu'ils ont entendu telle chose, telle chose. Bref. Donc, il suffit de tomber sur un mauvais enseignant, ou alors avoir une mauvaise fréquentation, ou alors que je sois reconverti à l'islam, que je ne connais rien, et que je veux apprendre, et je suis sincère, j'ai envie de comprendre, mais je suis mal entouré. Et avoir un mauvais professeur pour te dire que, t'as vu comment les... Regardez comment je vais vous détourner la sirah tout de suite devant vous. Hein. Je peux vous radicaliser avec l'épisode des... Je vous dis que, vous voyez, les sahaba, ils ont obtenu tel grade parce qu'ils ont tout donné pour combattre les Romains. Donc maintenant, quelqu'un qui... écoutez-moi, hein, que personne ne prenne une partie et coupe mon audio et tout, hein, je ne vais pas aller en prison. C'est enfin, je plaisante. Dire qu'une personne peut détourner les événements de la Sirah pour dire que lutter contre Arroum, contre le peuple romain, c'était ce qui a fait qu'ils ont eu l'agrément de Dieu. Là, wallah, c'est l'effort pour protéger le dîn. D'accord ? Et donc... Ce que nous devons retirer de la sirat, c'est ça, c'est l'enseignement, c'est l'esprit de sacrifice, la sincérité, rechercher l'agrément d'Allah. Et cet enseignement-là, il transite par l'enseignement de l'aqidah, de le tafsir, de le hadith, de la sirat. Et tout ça appartient du moment où nos enfants auront accès à un enseignement de qualité et un enseignement juste, parce que tout ce qui découle du Coran, de la sunna, est juste. D'accord ? Et à partir du moment où ils ont cet enseignement juste, mais il n'y aura jamais un... Tous les thèmes qui sont utilisés par la presse, je déteste. Il n'y aura jamais un intégriste, si je n'aime pas ce mot. Il n'y aura jamais un... Donnez-moi d'autres mots. Non plus. Il n'y aura jamais un fondamentaliste non plus. Il n'y aura jamais un... Un djihadiste. Un radicalisé. Un islamiste. Tous ces mots-là, ils n'existent pas. Tous ces mots-là, on peut mettre dans un autre sac. Jahil. Ah là oui, je suis d'accord. Parle-moi de Jahil. Ah oui, je suis d'accord. Et vous savez, il y a deux catégories de Jahil. Il y a le Jahil qui ne connaît rien et qui dit que moi, pas connais. Mais qui n'est pas rien. Ok, il est Jahil, mais il est inoffensif. Lui, il ne te posera pas de problème. Mais le problème, c'est le Jahil Murakkab. C'est l'ignorant qui est persuadé de tout connaître. Hadihil Mushkila. Je ne voulais pas aborder le sujet, mais celui qui a fait ce qu'on sait, pas besoin de vous remplir les oreilles avec ce qui nous affecte déjà hein, depuis une semaine. Regardez al-mafsada. Regardez al-darar ala al-umma. Comment est-ce que cet acte odieux, horrible, tout le monde l'a condamné. Je pense que ma voix rejoint tous ceux qui l'ont déjà condamné. Il n'y a pas un musulman qui applaudit. Hein, ce serait un pauvre imbécile. D'accord ? Mais en fait, certains aimeraient entendre les pauvres imbéciles pour pointer encore plus du doigt l'islam. Mais non, il n'y a pas de pauvre imbécile. Tout le monde condamne unanimement. Et du coup, ben, voilà quoi. D'accord ? Alhamdoulilah, il y a la bonne réaction. Mais je veux dire que un jahil, un ignorant, qui pense manifester son amour pour Al-Habib, alayhi salatu wassalam, de cette façon, il plonge des millions de musulmans dans taklif. Oui, non. Mazloum. Combien de mazloum à ce jour? Combien de personnes opprimées? Combien de personnes qui ont des difficultés? Combien de massages, d'associations? Jahl, l'ignorance. Il y a quelques années, un des hajj, bien-Allah, on a eu l'occasion d'être à Arafat, le mufti avait dit que à une époque, il y avait beaucoup d'attentats en Europe, et même sur les territoires. Hein, Madina, il y avait eu, Makkah, il y avait eu des événements. Il dit que le gros problème de la Ummah, c'est al-jahl, l'ignorance. À partir du moment où le mu'min se déconnecte du Coran, de la sunna, de la connaissance religieuse, c'est là que les choses vont donner. C'est-à-dire qu'une personne peut interpréter un acte ignoble comme étant une manifestation de piété. Alors que nous avons juste, et là je vous invite au dars, et on termine, au durus de tafsir du vendredi soir, où beaucoup de versets makkis, beaucoup de versets qui ont été révélés à Mecca, subhanallah, rappellent au prophète alayhi salatu wassalam qu'il se doit de se montrer indulgent et patient. Sbir ala ma yaqul, sois patient, sens du verset, face à ce qu'ils disent. Quand ils ont dit dans Sourate Al-Qalam qu'innaka la majnun, Allah Azza wa Jal réplique de quelle façon en disant innaka la ala khuluqin al. Et beaucoup de début de sourate de Tabarakalladhi, hein, du 29e juz, où Allah demande au prophète de se montrer patient. Et le prophète lui-même, il savait qu'on le critiquait, on l'appelait par des noms péjoratifs. Il dit que c'est pas moi ça. Moi, je suis Muhammad. Et non. Ça, c'est la réaction du croyant. Réaliser que le prophète a été insulté, même à son époque, trahi par son propre oncle, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'il a une réaction violente? Ah, wallah, kana la yantaqimu li nafsi. Hadith 2, Tirmidhi ou Nasa'i, un des deux. Il ne se vengeait jamais pour lui-même, li nafsi. Il ne se vengeait jamais pour une cause personnelle. Il pardonnait. Allahu Akbar. Il pardonnait. Et si les pires ennemis, un jour, venaient à lui demander pardon, subhanallah, il accordait. C'était Al-Nabi alayhi salam. C'était pas le prophète avait-il besoin de cet homme? Le prophète avait-il besoin de ce genre d'allègement? Là, wallah. Et nous le condamnons fermement. Et nous demandons à Allah Rabbul Izzah de nous donner la guider, la hidayah, guider nos cœurs, de guider nos enfants, de guider les futures générations, pour que, mashallah, qu'on ait une compréhension saine et correcte de l'islam, et que cette compréhension correcte fera de nous de bons croyants. Et qui dit bon croyant dit obligatoirement de bons citoyens. Obligatoire. Tu es un bon croyant, tu es un bon voisin. Tu es un bon croyant, tu es un bon papa. Tu es une bonne maman. Tu es un bon. Et ainsi de suite. Un bon murabbi, un bon éducateur, et tu es un modèle pour la Ummah, comme le prophète alayhi salat wa salam était, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, qui avait le meilleur des comportements, qui était rahmatan lil 'alamin. Qu'Allah guide nos cœurs pour ces meilleurs des comportements, et que cet enseignement de notre religion qui est juste puisse, incha'Allah, rejaillir par nos paroles et par notre façon d'agir, et que même si de l'autre côté, au niveau de la presse, ça martèle, ça lance des missiles, c'est pas nouveau. C'est pas la première tentative. C'est pas la première fois et ce n'est pas la dernière fois. Il y en aura encore et encore jusqu'à la venue de Al-Mahdi, jusqu'à Dajjal, ainsi de suite. Mais que yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim. Wallahu, Allah promis. Ils essaient d'atténuer le sens du verset de la lumière d'Allah par leur parole. D'accord? On peut dire leur parole, leurs écrits, leurs tentatives, tout ce qu'ils veulent. Ils vont essayer de diminuer, d'atténuer cette lumière qui vient d'Allah. Mais Allah a promis que cette lumière va perdurer. Elle perdurera parce que ce dîn, c'est la religion du haqq. Et qu'Allah nous permet de réincarner ce haqq et d'être des asbab al-hidayah. Ma tawfiq illa billah. Au cas où il y a un confinement. Je ne sais pas. Ce serait peut-être demain qu'on aura la nouvelle. S'il arrive que les durus sont interrompus, j'espère que ça n'arrivera. Inch'Allah, ça n'arrivera pas. Peut-être dans des grandes métropoles où il y a beaucoup plus de cas. Mais j'espère juste qu'ils font pas comme l'autre fois, on met pas toutes les régions dans un même panier. Après, on va pas leur apprendre à faire la politique, c'est chacun son métier. Si jamais il y a une interruption des cours, on met directement en place les cours en ligne, Inch'Allah. On peut pas s'arrêter à chaque fois comme ça, d'accord? Et là, notre référent, Hudhaifa, Allah yahfadhu, Hudhaifa sera le relais pour éventuellement, pour ceux qui veulent avoir le numéro pour qu'on vous mette en contact avec la plateforme hein, qu'on utilise, pour qu'on puisse continuer, parce qu'il faut avancer, on a besoin d'avancer. Ce n'est pas chaque fois qu'il y a un problème comme ça qu'on s'arrête complètement, il faut qu'on continue d'avancer. Inch'Allah, qu'Allah nous protège. C'est notre problème, ça, ikhwan, il fait là, on a des... Subhanallah, mashakil, t'es là. Difficultés concernant la religion par rapport à tout ce qui s'est passé. On a besoin de protéger notre dîn et protéger notre pratique. Il y a la sécheresse, c'est pas quelque chose de facile, ça. La sécheresse, on a besoin de concentrer nos doigts, demander à Allahumma rithna. Soit c'est ça, je crains que ce soit difficile, un peu compliqué à organiser. Ça doit se faire des intérêts vagues et tout, et peut-être réunir 200, 300 personnes, ça risque de ne pas passer. Ça va attirer les regards et tout, ça risque d'être compliqué. Mais que chacun fasse, ça c'est une priorité. D'accord? Et pour cette maladie, hein, demandez doigts qu'Allah enlève ce bala et qu'Allah éloigne cette difficulté et qu'Allah accorde la santé aux personnes qui sont souffrantes et malades, qu'Allah protège hein, nos personnes âgées. Et pas que les personnes âgées, qu'Allah nous protège de façon générale. Et que, subhanallah, que nous voyons la nusra d'Allah très bientôt. Amma tawfiq illa billah. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alaikum. Salamun alaikum.